Chapitre 10. Hélène le Sage était prostrée dans le canapé du salon, les deux mains serrées entre ses jambes. Pas besoin d'être psychiatre pour comprendre qu'elle marchait au bord du gouffre. Des poches violettes pesaient sous ses yeux. Ses ongles étaient rongés jusqu'au sang. Ses cheveux, au reflet pétrole, luisaient sous la lumière, noués en nattes épaisses. Se balançant d'avant en arrière, elle fixait l'ordinateur portable, posé et ouvert sur la table basse, les yeux éteints, les lèvres réduites à un trait de crayon sombre. « On sait que vous avez peur, » fit Lucie d'une voix bienveillante. « Le kidnappeur de votre mari s'est adressé à nous. Il nous a délivré un message. C'est pour cette raison que nous sommes ici. »
« Quel message ?»«
Une lettre où il énonce son dégoût de ce que le monde est en train de devenir, à travers les nouvelles technologies, les manipulations génétiques, tout ce qui va contre la nature.
Par exemple, ce que mon mari et moi avons fait. »
Lucie essayait de peser chacun de ses mots, de ne pas brusquer son interlocutrice.
« De ce genre-là, oui.
Dans cette lettre, il nous informe aussi de l'existence de ce site internet manifeste-angedufutur.com et nous demande d'y rester connectés. Pour l'instant, nous en sommes au même stade que vous et ignorons la suite des événements.
Ce qu'on sait par contre, c'est que chaque minute compte. Nous voulons retrouver votre mari et pour cela, nous avons besoin de votre aide. »
La femme renifla, puis après un instant d'hésitation, tendit le téléphone portable enfoui au fond de sa poche. Elle ne le lâcha pas quand Nicolas voulut le prendre.
« La brigade criminelle parisienne, vous dites ? Le fameux 36 quai des Orfèvres, c'est ça ? Alors vous allez retrouver mon mari, vous allez le sortir de là !»«
Nous allons tout faire pour. » Elle libéra l'appareil. Nicolas consulta le message qu'elle venait d'afficher, tout en écoutant ce qu'elle leur racontait d'une voix emplie de trémolo.
« Ça s'est passé... samedi, en début de soirée. Bertrand était au garage, il bricolait sur sa vieille Diane de collection. Il reste des heures en bas tous les week-ends, ça le détend, surtout en ce moment. Je ne m'étais même pas aperçu de sa disparition que je recevais ce message envoyé depuis son téléphone. Ce n'est pas Bertrand, mais son kidnappeur. Je détiens votre mari. Si vous prévenez qui que ce soit, je le tue. Soyez sûr que je le ferai. « Restez chez vous, fermez vos volets, ne répondez à personne. Connectez-vous à www.manifeste-angedufutur.com et attendez la suite. »
« C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai obéi. J'ai regardé la page noire pendant des heures et des heures, des journées, jusqu'à ce que... » Elle pointa l'écran et fondit en larmes. Nicolas constata qu'elle connaissait le message à la virgule près. Il fit défiler les SMS restés sans réponse qu'Hélène avait ensuite envoyés sur le téléphone de son mari. « Qui êtes-vous? Pourquoi vous faites ça? Rendez-moi mon mari !» Le ravisseur l'avait contrainte à ne rien révéler à personne. Il voulait tout maîtriser, tout décider. « À votre avis, votre mari a été enlevé dans le garage ?»
Là, ou dans le jardin. Bertrand laissait la porte du garage grande ouverte quand il bricolait. Quand je suis descendu, il y avait son chariot à roulettes à moitié glissé sous la voiture et des outils éparpillés sur le sol.
Ils allèrent sur place. La Diane Citroën de 1975 reposait sur un pont surélevé. Tout baignait encore dans son jus. Hélène le Sage expliqua avoir fouillé partout, fait des allers-retours vers l'extérieur, puis avoir refermé la porte du garage. Nicolas inspecta les lieux en détail, alla sur la partie avant du jardin, sous la pluie, sans rien déceler de flagrant. L'habitation était en retrait de la rue. De hauts cyprès protégeaient la propriété et bouchaient la vue aux éventuels observateurs. Puis ils remontèrent et reprirent leur place dans les fauteuils. Nicolas sortit son carnet de notes et un stylo. « Est-ce que vous pourriez nous apporter des éléments susceptibles de nous aider? Des choses inhabituelles qui se sont produites avant la disparition de votre mari? Un véhicule qui traînait dans le coin? Un démarcheur venu frapper à votre porte?
On pense que le kidnappeur a longuement mûri son enlèvement, qu'il savait exactement où et quand frapper. Alors, réfléchissez bien, chaque détail a son importance. Elle secoua la tête. Je n'arrête pas de repasser le film en boucle dans ma tête. Vous êtes au courant de notre mise en examen, je suppose. Lucie acquiesça. Avec Bertrand, nous traversons une passe difficile depuis 5 mois. Il était exposé. Il allait au front des médias. Il avait créé la page publique de soutien sur Facebook. Moi, j'étais en retrait, dans l'ombre. Mon mari voulait me protéger de la tempête médiatique. Elle hocha le menton vers l'ordinateur. Sur la page Facebook, Bertrand défend le droit de tous à avoir un enfant. Il poste des photos, des articles. Beaucoup de journalistes venaient chez nous pour lui parler. On était pris dans un raz-de-marée. Alors, c'est compliqué de vous dire. Vous permettez ? Allez-y. Nicolas nota l'adresse du profil Facebook sur son carnet. Plus de 10 000 abonnés. Puis, il fit défiler la page. Bertrand Lesage y livrait son combat quotidien à grand renfort d'articles, de vidéos et de photos de lui, de la maison, de la chambre vide du bébé. Facile pour le kidnappeur de le surveiller à distance, de récupérer son adresse, de creuser son intimité et de préparer son plan. Plus bas, deux clichés montraient des nourrissons alignés dans des berceaux, dans une chambre aux couleurs vives. L'un des visages était entouré. Voilà Lucas, l'enfant qu'on aurait dû accueillir, expliqua Hélène. Bertrand avait réussi à le prendre en photo à la pouponnière d'Auxerre. Ces salopards ne nous ont jamais laissé le serrer dans nos bras. Aujourd'hui, Lucas a 8 mois. 8 mois qu'il grandit dans cet endroit en attente de parents, piégés par l'absurdité du système français. Pourquoi ils nous interdisent de le prendre avec nous? Qui peut oser prétendre qu'il est mieux là-bas qu'ici avec nous? On a tellement d'amour à lui donner. Lucie éprouva de la compassion pour cette femme qui avait tout perdu. Mais elle comprenait aussi la position des autorités. Il n'était pas seulement question de donner de l'amour, mais aussi d'identité, de racines, et les lois de la bioéthique existaient pour éviter les dérives. Des cas médiatisés avaient souligné la cruauté du procédé, comme celui de cette mère porteuse thaïlandaise. Des 2 bébés qu'elle avait menés jusqu'au terme, l'un était porteur du gène de la trisomie 21. Les parents adoptifs n'avaient emporté que le jumeau sain, abandonnant son frère handicapé à cette femme déjà pauvre et en incapacité de subvenir à leurs besoins. Lucie essaya de garder la distance qu'imposait son métier. Comment cette histoire a commencé? Comment la justice a-t-elle détecté le système que vous aviez mis au point avec votre mari et la mère porteuse? Hélène garda un visage fermé. « Nous ne sommes pas là pour vous juger, » ajouta Lucie, « mais pour retrouver votre mari. Nous avons besoin de comprendre la manière dont tout cela s'est mis en place. » Après un silence, elle finit par se confier. Tout s'était bien passé jusqu'à l'enquête menée par l'aide sociale à l'enfance. C'était le dernier rempart avant qu'on puisse récupérer le bébé. Quand l'un de leurs psychologues est venu ici pour comprendre pourquoi nous voulions à tout prix de cet enfant, mon mari a mis en avant sa paternité. Ayant lui-même grandi sans père, il se sentait en devoir d'accueillir le bébé. Il avait inventé une histoire d'adultère. Je vous épargne les détails de l'entretien, mais on a pensé que l'assistante avait avalé notre histoire. Bien sûr, on ne lui avait pas parlé de mon infertilité. Ça aurait immédiatement éveillé les soupçons. On avait préparé nos réponses, anticipé toutes les questions. Seulement, on est tombé sur une peau de vache qui est allée fourrer son nez dans les dossiers de demande d'adoption. Comme si ces gens-là avaient un 6e sens pour flairer les coups tordus. Lucie remarqua que ses doigts tremblaient. Facile d'imaginer le calvaire que Hélène Lesage vivait depuis 4 jours, recluse et enfermée, à observer cette page noire dans un premier temps,
puis son mari à l'agonie dans un cylindre dans un second à 1 mètre à peine d'une corde de pendu. Elle a sorti notre dossier d'adoption de la poussière. Tout y était, y compris mon incapacité à donner la vie ou même à porter un enfant. Nos mensonges nous ont explosé à la figure. Quand on a été convoqué, quand ces gens se sont retrouvés en face de nous, j'ai fondu en larmes et j'ai craqué. J'ai tout avoué en croyant qu'ils auraient un peu de compassion. On voulait cet enfant plus que tout au monde. Mais ils ont été intraitables. Ils ont mis la machine judiciaire en route. TGI, juge des affaires sociales. Tout s'est effondré autour de nous. Et ce n'était que le début du cauchemar. La douleur l'engloutissait. Elle finit par se lever. « Vous voulez de l'eau ? Je n'ai plus de café, plus rien. » Ils refusèrent poliment. Elle revint avec un verre, bu par courte lampée. Notre avocat nous a conseillé de médiatiser l'affaire pour lier les mains du juge. Ça a éclaté au grand jour début septembre. Le bon moment selon lui, puisque la procréation médicalement assistée était au cœur des discussions au gouvernement. On la promettait pour toutes les femmes désireuses de procréer. L'idée était de dire qu'en développant la PMA, mais en continuant à interdire la GPA, on n'apportait aucune solution à toutes celles qui ne peuvent ni donner d'ovocytes, ni porter d'enfants. Les femmes dans mon cas. Elle désigna l'écran. Ça a été un déferlement de journalistes devant chez nous. On est soutenu sur Facebook par des milliers de personnes. Beaucoup comprennent le désir d'enfant qui nous a poussés à en arriver là. On commence même à parler de plusieurs rassemblements en France pour relancer le débat sans fin autour de la GPA. Mais vous ne pouvez pas imaginer la violence des réactions. Les menaces, des individus malfaisants se sont abonnés rien que pour nous nuire, nous traitant d'esclavagistes, de marchands de misère, même d'exploitants de four à bébé. Bertrand a été taxé de docteur Mengele. Vous vous rendez compte? Comment peut-on le comparer à Mengele? Lucie savait que le sujet autour de la GPA divisait à l'extrême et pouvait mener à tous les excès. Certains parlaient même d'eugénisme compassionnel, d'ubérisation des utérus. En Inde, par exemple, les mères porteuses étaient regroupées dans des fermes, dans un seul but d'exploitation, et de riches étrangers venaient ensuite choisir leurs bébés comme au supermarché. J'ai relu et épluché tous les commentaires odieux. Peut-être le kidnappeur de mon mari était-il dans le lot? Vous le pensez? Comment savoir? Je ne connais pas ces gens qui se cachent derrière des masques. Certains comptes sont privés, d'autres mènent vers des pages vides. Je suppose qu'il y a des faux profils. Peut-être même nos propres voisins, nos amis, s'en prennent-ils à nous avec des comptes anonymes.
Il faudrait éplucher la page et les fils de discussion. Peut-être l'ange du futur, avant d'agir, avait-il proféré des menaces ou des commentaires virulents à leur encontre.
Qu'en est-il de la mère biologique?
Le visage d'Hélène changea d'expression. Les lèvres dévoilèrent de petites incisives brillantes.
Elle n'a laissé aucune trace. On ne connaît pas son identité, on sait juste qu'elle se faisait appeler Natacha. Tout ce dont on dispose, c'est une vidéo.
Mon mari...
Elle fit un réel effort pour continuer.
Mon mari avait filmé ce jour-là dans la chambre d'hôtel. Rien d'obscène là-dedans. On voulait juste garder une trace, au cas où.
Lucie acquiesça pour montrer qu'elle comprenait.
Des policiers du commissariat central d'Orléans nous ont demandé de leur fournir le fichier il y a environ 2 mois. Le contact est le commandant Frédéric Boetti.
Elle agita le doigt en direction de Nicolas.
Frédéric Boetti. Vous notez? Il faut que vous alliez les voir, que vous leur posiez toutes les questions et que vous retrouviez mon mari.
Nicolas acquiesça et inscrivit l'information.
Elle poursuivit. J'ai appris il y a quelques jours qu'ils étaient sur la piste de Natacha, mais je n'en sais malheureusement pas plus.
elle sait peut-être quelque chose sur l'auteur de l'enlèvement.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Bertrand m'avait raconté que le soir où Natacha a récupéré l'argent et révélé le lieu de l'accouchement, elle avait peur. Elle a évoqué la lumière qui pouvait attirer des ombres, des propos pour le moins obscurs.
Elle avait peur de quelqu'un ? Elle se sentait persécutée ?
Je n'en sais rien. Et puis, il y a autre chose, sans doute le pire de tout. Un vrai coup de couteau dans la chair, comme si nous n'avions pas suffisamment de problèmes.
Elle fit tournoyer son verre entre ses paumes ouvertes. Les flics ne dirent rien,
la laissant parler à son rythme. Nicolas notait les éléments essentiels.
C'est notre avocat. Avec la vidéo, il a réussi à convaincre le juge d'ordonner un test de paternité. C'était il y a 4 ou 5 semaines, je ne sais plus précisément. Il disait que la paternité prouvée de Bertrand devait faire pencher la balance de notre côté. Mon mari a dû se rendre à Bordeaux pour qu'on lui prélève un échantillon de salive. Je ne me souviens plus du nom. C'était dans un laboratoire ultra-moderne, en tout cas.
Le laboratoire d'hématologie médicale ? Dit Lucie. J'ai vu l'enveloppe là-haut.
Oui, c'est ça. Cette enveloppe contient une copie des résultats que notre avocat nous a transmis voilà une dizaine de jours. Mon mari n'est pas le père génétique de Lucas.
Hélène Le Sage secoua la tête sans quitter l'écran des yeux.
On n'y a pas cru quand les résultats sont arrivés. On ne comprend pas et on n'a aucune réponse, c'est ça le pire. Sur la vidéo, on voit clairement Natacha s'injecter le sperme de mon mari. Elle est tombée enceinte d'un autre homme et elle nous a fait croire que c'était le fils de Bertrand. Mais qui est le vrai père ? Est-il au courant ? Pourquoi elle a agi de cette façon ? Pour gagner encore plus d'argent en s'injectant des pipettes de sperme à la pelle ?
Lucie ne dit rien, mais tira le bilan qui s'imposait. Au final, Hélène Le Sage et son mari n'avaient aucun lien biologique avec cet enfant.
Au départ, quand j'ai reçu ce SMS de menace, je me suis dit que le ravisseur était le vrai père biologique, qu'il nous avait retrouvés à cause de la médiatisation et qu'il avait voulu, d'une façon ou d'une autre, se venger.
Qu'est-ce qui vous fait penser le contraire à présent ?
L'autre fille prisonnière, toute cette mise en scène, il n'y a pas la marque d'une vengeance là-dedans. Et puis, c'est beaucoup trop complexe.
Hélène explosa en sanglots.
Ils sont enfermés depuis des jours. Ils n'ont presque plus rien à manger ni à boire. Vous avez vu, la fille a dû uriner dans une bouteille. Et cette corde de pendu, c'est horrible. Horrible.
Lucie s'approcha d'elle et lui caressa le dos.
« Vous ne devez plus rester seule. Vous avez une personne chez qui aller ?»
Hélène secoua la tête sans donner l'impression de réfléchir.
« Non, je ne veux pas partir d'ici. Je ne veux pas l'abandonner. Dans ce cas, je vous envoie quelqu'un. Il va nous falloir quelques informations supplémentaires comme le numéro de téléphone de votre mari. » Les chances que le kidnappeur ait laissé son portable allumé depuis l'envoi du SMS sont minces, mais on va tout de même essayer de le géolocaliser. Vous pouvez nous montrer la vidéo où l'on voit la mère biologique dans l'hôtel ?
Elle approuva d'un hochement de tête, lança le film sur son ordinateur et s'éloigna. Lucie et Nicolas observèrent l'écran avec attention, mémorisèrent chaque trait de cette Natacha. Une jeune femme mince, sèche et nerveuse. Comment les Le Sage avaient-ils pu lui accorder leur confiance au point d'accepter qu'elle porte leur enfant ? Lucie ne comprenait pas. Mais après tout, qu'aurait-elle fait à leur place ? Après la scène de l'insémination, elle coupa la vidéo. Nicolas s'éloigna pour répondre à un appel.
« À peine sorti d'ici, nous allons nous rendre au commissariat central et nous rapprocher du commandant Boetti, » dit Lucie.
« Soyez sûr que nous allons tout mettre en œuvre pour vous ramener votre mari. »
Hélène acquiesça. Plus loin, Nicolas allait et venait, téléphone à l'oreille, lui indiquant de le rejoindre. Il échangea encore quelques mots, raccrocha et emmena sa coéquipière à l'extérieur où il s'alluma une cigarette.
« Je n'ai pas tout compris, mais apparemment, on a identifié la deuxième personne enfermée dans le cylindre. Enfin, pas précisément, on connaît surtout son compte Facebook, elle se fait appeler Flowies. »